Vendredi Théâtre sur Divergence FM, le 93.9 et le générique de Vendredi Théâtre. Il s'agit donc d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano. Alors je suis avec Christopher. Bonjour Christopher.
Bonjour Florent.
Et comme toutes les semaines, nous attendons Tito qui ne va pas tarder à arriver dans les studios. Alors premier plateau, nous allons parler de Tchekhov, de deux pièces de Tchekhov qui se jouent actuellement au Théâtre des 13 Vents. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir M. Christian Benedetti. Bonjour.
Bonjour.
Donc deux pièces, il s'agit de La Mouette de Tchekhov et Oncle Vania. J'ai cru comprendre également que vous aviez l'ambition de monter l'intégrale des pièces de Tchekhov. Est-ce que je me trompe ?
Non, on est en train de tout monter. Là, on a monté aussi Trois Sœurs. Et qu'on a joué la dernière série, c'était à La Criée à Marseille. Et ensuite, on va reprendre les trois, puis continuer avec La Cerisée. Et on finira avec Être sans père et Ivanov.
Christopher, toi, tu as vu le spectacle. Moi, je n'ai pas encore vu La Mouette. L'Oncle Vania, c'est la semaine prochaine que ça commence. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes impressions sur ce spectacle ? Je sais que tu es sorti tout à fait enthousiaste. Tu m'as téléphoné juste après. Tu avais ton air des bons jours.
Mais alors, moi, je n'avais jamais vu La Mouette. Pourtant, c'est une pièce qui est régulièrement jouée.
Je crois que je l'ai vu déjà il y a 2 ou 3 ans. C'était au 13 Vents, il me semble, ou peut-être à Jean Villard.
Oui, donc moi je n'ai pas de point de comparaison, donc j'y suis allé avec un regard...
Neuf.
J'allais dire vierge. et j'en suis ressorti, j'ai beaucoup aimé, Tito n'est pas là, le dira quand il arrive. On a lui qui avait déjà vu des points de comparaison, ça nous a fait plaisir de voir du théâtre de cette qualité, de passer ce moment... 1h40 qu'on ne voit pas passer, d'une très bonne qualité. On a beaucoup aimé.
Vas-y, je voulais pas t'interrompre.
Non, mais c'est assez difficile de faire le résumé de la pièce pour ceux qui ne connaissent pas.
Hein. C'est une pièce qui parle du théâtre aussi, si je ne me trompe. Moi, c'est un vieux souvenir de lecture.
Entre autres, ça parle de beaucoup de choses.
Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés.
Ça parle de beaucoup de choses, ça parle... résumer la pièce, enfin parler... Tchekhov utilise pour La Mouette le milieu, un des milieux qu'il connaît le plus, c'est-à-dire le milieu des artistes et de la littérature. Tous ces gens vont devenir, rêvent de devenir... artistes, écrivains, etc. Et puis autour, il y a des gens qui ne le sont pas, qui ne le seront pas, qui sont les spectateurs de ça. Et voilà, c'est le prétexte à, comme toujours avec Tchekhov, à montrer la complexité des rapports humains. C'est des banalités, ce que je dis, ça n'a pas grand intérêt. Le plus intéressant, c'est de penser qu'avec La Mouette, il a révolutionné l'histoire de la littérature et du théâtre, puisque c'est la première pièce qui s'écrit par acte, mais non plus acte et scène à l'intérieur, qui raconte, enfin qui signifie l'entrée ou la sortie de personnages. Donc faisant ça, il signe implicitement l'arrêt de mort des personnages au profit de rôles et de structures de pensée, ce qui pour l'époque est une révolution considérable. Plus de personnages, plus de psychologie. Donc contrairement à toute une série d'idées reçues qu'on a par rapport à l'interprétation de Tchekhov, évidemment que c'est radicalement différent. Ce qu'il continue à faire avec Oncle Vania, de ce questionnement de la dramaturgie de son époque, puisque même l'acte 1 de La Mouette est écrit pour être joué de dos. Et tout ça, c'est en 1896, et il écrit « J'écris non sans plaisir une pièce qui va à l'encontre de toutes les règles dramaturgiques. » Et pour ça... parce que c'est comme s'il y a trois périodes en fait dans l'œuvre de Tchekhov. Il y a une période qu'on va dire plus, qui est la première période, qui est plus traditionnelle, qui est composée d'une pièce qu'il a écrite aux alentours de 20 ans, qui est censée ne pas exister puisqu'il l'a cachée, qui s'appelle Être sans père, qu'on traduit de façon commode par Platonov, mais en fait c'est un abus de sens parce qu'en fait Être sans père, c'est au sens politique, c'est pas au sens d'une situation familiale. Puis Ivanov, qui est la première pièce vraiment officielle, qui est une pièce de facture assez classique. Puis avec La Mouette, il renverse tout. Donc à partir de là, ce sera écrit que par acte. Donc La Mouette, Vania, puis ensuite, comme Suite à la recréation de la Mouette au Théâtre d'Art par Stanislavski, il rencontre cet homme-là qui ne comprend rien à son théâtre. Parce que c'est aussi intéressant de voir que de remettre ça en perspective historique. C'est-à-dire que Stanislavski n'a pas compris l'œuvre de Tchekhov. Mais c'est pas grave parce que l'un sans l'autre, il n'aurait pas pu continuer à travailler. Donc à partir du moment où Stanislavski monte la Mouette pas très bien, il se met à travailler sur la conception du personnage. Or, Tchekhov dit qu'il n'y a plus de personnage. Donc c'est un malentendu génial, mais c'est pas grave. Et ensuite, Vania était déjà écrite, et donc après, il va se mettre à écrire pour l'équipe du Théâtre d'Art, donc deux pièces de troupe, Trois Sœurs et La Cerisée. Voilà, où on retrouve la même typologie physique des gens. Donc il y a trois époques, c'est comme en peinture, il y a trois périodes, et ce qui est passionnant, c'est ça, c'est de voir la révolution littéraire et aussi la façon dont cet homme pose. C'est pour ça que j'ai décidé de monter toute l'œuvre et que je suis revenu à Tchekhov comme qui pour moi est quasiment le théâtre absolu et c'est des choses dont on a beaucoup parlé avec Edouard Bond qui est associé au théâtre que je dirige.
Ah oui.
C'est la question fondamentale pour moi de Tchekhov, c'est qu'est-ce que le contemporain et comme la question de la même façon que Agamben pose la question. Dans son petit livre magnifique. Et Tchekhov pose cette question de façon, sous un point de vue différent dans chaque pièce et propose des entrées différentes. Voilà. Et c'est passionnant de questionner ça avec son écriture et avec la même équipe d'acteurs, de voir comment ils traversent les rôles et les pièces, puisqu'en même temps, on ne fait que continuer un dialogue avec Tchekhov, parce que c'est... On peut dire, c'est ça aussi qui est intéressant dans la mesure où il n'y a plus de personnages, c'est une seule personne qui parle et on s'empare de cette parole chacun à notre tour, mais c'est la même voix qui défile.
C'est une pièce que vous aviez déjà montée, La Mouette, il me semble.
Il y a 35 ans, oui.
Il y a 35 ans. Tito vient de nous rejoindre dans le studio. Bonjour Tito. Alors toi, tu as vu la pièce donc, et tu es revenu tout à fait enthousiaste. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions ?
C'est surtout la mise en scène, puisque le texte, je l'avais déjà vu deux ou trois fois. J'avoue que je suis allé un peu dans la rubrique encore La Mouette, ça fera la troisième fois à peu près 5 ans, mais dès le début on comprend que ce sera tout autre chose, donc c'est très volontaire comme mise en scène. Je trouve ça très intéressant de ne pas la jouer ni à la façon Stanislavski, ni à la façon du théâtre 19e, justement de voir autre chose. Comment est-ce que je peux expliquer, puisque je n'en suis pas spécialiste, mais je pense que vous devez prendre le texte et le retravailler peut-être en vous vidant de tout concept de, disons, de mise en scène classique, non ? C'est une question.
Non, c'est qu'on a pris le texte et on l'a mis en scène, on l'a mis en perspective, mais on n'a pas tenu compte de quelque folklore que ce soit qui n'est pas notre folklore. Donc, je vois pas pourquoi on va être nostalgique d'un passé perdu qui en plus n'est pas le nôtre. Partant du principe que Stanislavski s'est trompé, enfin, il ne comprenait pas, je voyais pas pourquoi il fallait suivre ce qu'il avait pu dire, et parce qu'aussi Stanislavski pour moi est un génial illustrateur, mais le premier metteur en scène de l'histoire de la mise en scène, c'est Meyerhold, parce qu'il y avait un point de vue critique. Or, ce qui m'intéressait, c'était de penser que Meyerhold a joué Treplieff. Treplieff qui dit « il faut des formes nouvelles ». Je ne pense pas qu'on puisse jouer ce rôle tous les soirs sans que ça fasse un écho particulier dans la personne qui le fasse. Donc, ce n'est pas étonnant que Meyerhold aille créer le premier studio. Si mon théâtre s'appelle le Théâtre Studio, c'est un hommage à Meyerhold. Qui lui va évidemment mettre en perspective une pensée par rapport à une œuvre. Stanislavski, lui, il illustre. Nous, on est parti d'un principe simple, qui était un principe de répétition, c'est-à-dire qu'on prend des objets qui sont là pour nous aider à répéter, qui deviennent notre espace et notre univers. Avec ça, on recrée la chose et on se débarrasse, on ne garde que ce qui sert à transmettre le sens. Moi, je n'aime pas les scénographies qui ne sont pas que allusives. Je pense qu'il faut laisser au cinéma qui en a les moyens et qui le fait de toute façon parce qu'il n'a pas forcément le choix, la reconstitution, les choses comme ça. Le théâtre, ce n'est pas sa fonction, il me semble. Les gens savent bien qu'ils ne sont pas ni dans une maison de campagne, ni en week-end, ils savent qu'ils sont au théâtre. Donc leur montrer des faux arbres, ça, je trouve ça juste triste. Par contre, c'est essayer de réinventer la manière de peindre les arbres, leur proposer autre chose, et qu'ils soient eux-mêmes en train de colorier, qu'ils imaginent cette pièce, cette maison, voilà. Tout ce qu'il n'y a pas finalement, puisqu'il n'y a pas de costume, il n'y a pas de décor, voilà, il y a très peu de choses, juste ce qui est utile.
Ça permet cette manière de me mettre en scène, ça permet de voir un peu l'actualité finalement des idées qui sont données dans la pièce, parce qu'il y a quand même un aspect très critique de certains artistes, par exemple, dans la pièce. Des fois, j'ai eu l'impression même qu'il y avait une critique avant l'heure du bobo dans cette pièce.
Ça, on peut voir ça. Je crois que Tchekhov, comment dire, le fait de n'utiliser rien met le texte à nu. Donc, il n'y a que le texte et la pensée. Donc, on est face à ça. Donc, forcément qu'on trouve ça contemporain, parce qu'une pensée, c'est forcément contemporain. C'est-à-dire, à partir du moment où on l'énonce, elle est énoncée dans le temps, devant les gens. Voilà, et rien ne nous renvoie à une imagerie rassurante, encore une fois, d'un passé perdu qui n'est pas le nôtre, ou d'une chose comme ça, oui, mais ça c'est du 19e siècle, alors... Non, c'est maintenant. C'est des gens comme, voilà, on est habillé comme on est là, et on joue ça comme ça, ce qui fait qu'il n'y a pas d'échappatoire, on est obligé d'entendre le texte, parce que si on ne veut pas écouter le texte, il faut s'en aller, parce qu'il n'y a rien à voir. Donc, voilà. Comme ça, c'est simple. Oui. Mais le théâtre, ce que fait, Tchekhov, quand il dit il faut des formes nouvelles, il parle aussi par rapport à sa façon, là, d'écrire la mouette, mais aussi, comment dire, le texte que propose Stripliev, au départ, qu'il fait jouer à Zaretchnaya. C'est une pièce qu'on a trop longtemps, par méconnaissance ou malconnaissance, on a pris comme... on s'est moqué de ce texte, on a pris ça comme une pièce ringarde, on a dit oui, c'est un prurit adolescent, c'est une chose un peu... Or, ça c'est la réflexion qu'on a quand on ne connaît pas l'histoire. Or, historiquement, grâce à ce texte-là, ce petit texte qui n'a l'air de rien, tous les poètes absurdistes des Aoum, que ce soit Khlebnikov, que ce soit Daniel Arms, ont... commencé à écrire. Ils ont revendiqué une nouvelle poésie. Ils ont revendiqué ce que Khlebnikov appelait le droit à l'incompréhension. Ça a ouvert des perspectives littéraires immenses. Donc, ce n'est pas un texte anodin. Et Tchekhov n'écrit pas un texte anodin. Il parle d'un théâtre d'après la catastrophe, c'est-à-dire un théâtre où il n'y a plus de personnages. Encore une fois, là, il le dit. Il y aura juste une voix qui est la voix de l'esprit. Il n'y aura plus rien, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus rien. C'est un théâtre... c'est le théâtre après le désastre. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste la pensée. Une âme unique, universelle. Juste une pensée. C'est ce que va dire le médecin à la fin de la pièce, quand il va dire qu'il préfère que de toutes les villes qu'il a vues, c'est Gênes, parce que tout le monde se fond et qu'on peut retrouver la pensée unique et universelle. Donc c'est un... Il parle d'une... Alors, évidemment, pour lui, c'est très compliqué de mettre ça en forme, parce qu'il n'a pas forcément les mots pour l'expliciter. Et que, évidemment, pour Zaretchnaya, elle dit « Oui, mais il n'y a pas d'être vivant, etc. » Parce qu'elle, forcément, comme elle n'est pas actrice, elle ne comprend pas, elle ne sait pas faire. C'est compliqué. C'est une proposition compliquée face à des gens qui, eux, sont dans une institution et qui sont corrompus par cette institution. Ce sont des stars, c'est-à-dire que Trigorine, il est déjà mort de son vivant, puisqu'on vend des portraits de lui, on vend comme ça. Il ne fait que des copier-coller de tout. Il ne sait même plus parler d'amour à une jeune fille, puisqu'il lui dit à l'acte 3, mais vous êtes si belle, quel bonheur de penser que nous allons bientôt nous revoir, je reverrai ce visage si doux, etc. C'est visiblement un copier-coller de ce qu'il a écrit. Il n'arrive même plus à parler par lui-même, c'est-à-dire c'est juste pathétique. Et du coup, c'est pour ça qu'elle l'embrasse pour arrêter ça, parce qu'elle a bien compris qu'il valait mieux qu'il se taise et qu'il l'emmène. Arkadina, elle n'a de rapport avec... Elle n'a un rapport avec les autres qu'à travers le théâtre et la théâtralité. Elle ne sait même plus qui elle est elle-même. Quand elle est confrontée au réel, elle se met en colère parce que le réel ne répond pas. Quand elle veut des chevaux et qu'on ne lui en donne pas, elle fait une crise de nerfs parce que, ben oui, parce qu'au théâtre, si elle veut n'importe quoi, on lui apporte. Là, elle ne comprend pas comment ça ne peut pas. Le monde ne se plie pas à ses désirs comme au théâtre. Donc, ça pose la question de l'être et du paraître, évidemment, tout le temps. Et puis, ce sont tous des gens, comment dire, s'il y a une actualité aussi qui se retrouve, c'est que c'est un siècle brisé et nous sommes aussi à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui est en train de disparaître et un monde qui est en train d'arriver. Mmh. Soit on ne s'aperçoit pas qu'on est en train de disparaître, soit on s'aperçoit et on s'y accroche et on ne veut pas partir. Sauf qu'on va être obligé de partir et de quitter ce monde, que ça nous plaise ou non, qu'on le déplore ou pas. Et alors, bon, voilà, quelquefois en le déplorant, on essaye encore de donner des leçons à nos enfants parce que ce qu'on a fait est tellement magnifique qu'il faut vraiment qu'ils nous suivent parce que c'est important de refaire un tel merdier. Donc, c'est absurde et ce sont des gens qui sont, comment dire, personne ne se soucie dans la pièce de comment manger ou... Ça arrive sur la table. Il y en a un qui pose la question, et évidemment, tout le monde se fout de sa gueule, c'est Medvedenko, c'est l'instituteur, qui lui dit combien ça coûte. Oui. Une rame de papier pour écrire, ça coûte combien? On lui dit, oh non, je n'ai pas acheté. Oui, pour mettre vos états d'âme et écrire toutes vos merdes là, ça coûte combien? Parce que moi, j'ai pas d'argent. Et j'ai un enfant. C'est le seul qui a un enfant. Oui. Viable, qui va survivre, c'est les générations futures. Et pour Tchekhov, l'instituteur était le plus beau métier du monde, puisque c'est lui qui donnait aux enfants un outil d'émancipation qui leur permettait de pouvoir espérer devenir autre chose que ce qu'ils étaient par naissance. Et cette personne-là, tout le monde la regarde de façon étrange parce qu'ils ne comprennent pas ça. C'est passionnant de voir comment Tchekhov, l'air de rien, introduit le premier regard marxiste dans le théâtre. Quelqu'un qui pose la question de combien tout coûte. À quoi ça sert? Utile dans le sens de outil. Donc, de façon étymologique. Donc, c'est très, très intéressant, ça. Et en plus, comme tous les noms veulent dire quelque chose, Medvedenko, Medved, ça veut dire petit ours, oursinet. Donc, dans ce milieu d'artistes, il y a un type qui est un ours. Et qui est là et qui est confronté à Chamraïev, qui veut dire à peu près un peu comme un cadenas, qui ne veut pas donner des chevaux, donc il enferme tout le monde. Zaretchnaya, qui veut dire de l'autre côté du lac. Trepliev, qui est celui qui tremble et qui parle à 100 à l'heure sans pouvoir s'arrêter. Arkadina, qui est un pseudonyme, qui est la douce Arcadie. Voilà, et puis il y a des noms qui ne veulent... Dorn, qui est le médecin, qui est un nom allemand, qui veut dire l'épine, donc celui qui est le plus aigu et qui comprend, lui, la pièce de Trepliev. Avec même un désarroi, parce qu'il a voulu être écrivain, on le comprend, il a voulu être écrivain, etc. Mais sinon, voilà, Trigorin, lui, ben, ça veut rien dire. Voilà, c'est un nom d'une banalité folle. Mais voilà, les noms, c'est passionnant aussi de voir comme... Parce que Tchekhov n'a rien écrit d'innocent. Hein. Il était malade, il savait qu'il allait mourir, puisqu'il était médecin. Ouais. Donc il écrivait en état d'urgence. Donc il fallait que tout comptait, quoi. Il n'y a pas de chantilly.
Mais je crois savoir que d'ailleurs, l'une des références de Tchekhov, c'est Maupassant, si je ne me trompe pas, où aussi les noms ont une importance, chaque nom a un sens dans Maupassant.
Oui, à un moment, on lit ça, on lit sur l'eau de Maupassant, oui. Enfin, ils lisent sur l'eau.
Et il y a aussi une autre pièce qui est citée régulièrement, une pièce de Shakespeare, c'est Hamlet, qui est citée régulièrement, une autre pièce où il y a du théâtre dans le théâtre.
Parce que ça, c'est la première pièce que Tchekhov a vue, qui était Hamlet, et il en est resté bouleversé. Donc là, dans La Mouette, c'est la même histoire qu'Hamlet.
Oui, oui.
C'est pareil. Et c'est aussi Électre renversé. C'est le mythe qui est renversé. Donc, parce que Hamlet, c'est quand même un peu inspiré d'Électre. Comme tout le monde se piquait tout, Shakespeare n'est pas arrivé en disant « Tiens, j'ai une idée ». Non, il avait déjà piqué. C'est intéressant, ça. Ce piquage multiple.
Mais c'est ça qui est intéressant.
Oui, bien sûr, oui. Mais il faut se piquer les uns les autres.
Moi, je vous écoutais et je pensais... J'espère qu'il y a des personnes, des étudiants de lettres et même des collègues de lettres qui vous écoutent parce qu'il n'y a plus, à mon avis, que dans des métiers comme ça où il y a encore de l'invention pour lire un texte. En lettres, on est enfermé dans des méthodes qui datent déjà d'il y a 30 ans. Et j'ai l'impression qu'on n'en sort pas. On s'en fout un peu du texte. On est très tellement content de nous-mêmes et des méthodes qu'on a. Et puis, on a lu machin et machine. Et puis, au besoin, on en citera. Et puis, comme ça, c'est très bien.
Parce que je pense qu'on
et alors que vous, vous en foutez visiblement de tout ça, même si visiblement, vous vous êtes énormément documenté et vous avez réfléchi à tout ce que vous avez lu sur le sujet.
Parce que moi, je suis... Voilà. En tout cas, moi, je fais l'effort d'être le plus près du texte possible et du sens.
Voilà.
Probablement parce que j'ai travaillé avec des auteurs contemporains vivants pendant 17 ans. Donc, là, étant vivant, on ne peut pas faire un hold-up. Mais je pense qu'il y a une question centrale dans la culture. Enfin, une des questions, c'est que ou bien ce sont des métiers patrimoniaux, et je parle de culture et d'enseignement en même temps, mais où c'est autour du patrimoine et c'est un entre-soi où on se satisfait de se prouver à nous-mêmes qu'on est intelligent et on reproduit sans cesse cette même chose comme ça pour... Et finalement, c'est rassurant. Moi, je pense que le théâtre est l'endroit de l'intranquillité et qu'il faut faire des braquages. Un acte de création, c'est un braquage. C'est réussi quand on arrive à toucher ce que Sarah Kane appelle l'endroit de... L'endroit encore sanglotant, cet endroit de l'innocence radicale qu'on essaye de cacher comme ça, pour être acceptable aux autres. C'est quand, si on nous demande comment ça va et qu'on dit ça va pas, l'autre tout à coup il se décompose, il sait pas quoi faire, il se dit merde, j'aurais jamais dû poser la question, c'est la merde pour la journée. Mais alors on dit oui, comment ça va? Ça va. Et tout le monde s'en fout, en fait. On se pose une question qui n'a aucun sens puisque la réponse n'a aucun intérêt. Alors donc, à quoi ça sert? Donc tout ça se pose des questions. Moi je fais du théâtre pour ça, c'est-à-dire pour remettre essayer de revenir à un sens comme ça, que si on pose une question, ça a du sens, et la réponse, évidemment, il faut en tenir compte. Et en tant qu'outil, au sens marxiste du terme, c'est que voilà, ça doit servir à quelque chose, et on essaye, mon objectif, c'est de permettre aux gens qui regardent de faire un pas de côté, de changer la façon de regarder, et de se poser des questions de comment ça marche. Si on arrive à braquer quelqu'un, à le braquer à cet endroit-là, donc à le déplacer, alors on a fait le job. S'il sort du spectacle en disant « Ouais, on a passé une super soirée, on a raté le truc, c'est qu'on se fait chier, parce que c'est pas un des spectacles digestifs, ni...
Ah non.
On n'est pas là pour ça. Donc la pensée n'est pas une digestive, c'est un facteur de mouvement. Or, c'est vrai qu'on se satisfait d'une chose parce que sinon, ça fait peur. Et c'est tellement plus facile de gouverner des gens par la peur et par une espèce de pensée préétablie. Moi, je pense que, bon, je devrais peut-être pas le dire, mais l'enseignement est un génocide absolu.
Je suis absolument d'accord.
Donc, parce que je pense qu'il faut faire, il faut dire, il faut, comment dire, Brecht avait raison quand il dit qu'il faut en finir avec les bonnes vieilles choses et commencer avec les mauvaises nouvelles choses. Voilà. Il faut, mais c'est pour ça aussi il y a une telle méfiance à l'égard de la jeunesse, à l'égard de ce qui est nouveau, de ce qui n'est pas comme soi, de ce qui, mon Dieu, c'est qui n'a pas la même, si même le vêtement n'a pas la même couleur, c'est étrange, tout ça est étrange, voilà, c'est curieux, ce sont eux-mêmes qui deviennent étranges, ils ne le voient pas.
Je vois que l'heure tourne, on va rappeler donc que La Mouette, c'est au Théâtre des 13 Vents, la dernière c'est ce soir à 20h30. Mon oncle Vania, ça commence samedi.
Non, c'est pas mon oncle Vania. Non,
l'oncle
c'est oncle,
Vania.
Oncle Vania, Vania. Tout. Ça n'est pas le sien.
C'est un lapsus. Oncle Vania, c'est donc samedi à 19h, lundi à 19h, mardi à 19h et mercredi à 20h30. Merci de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau. Et on va se quitter avec un compositeur russe que j'ai retrouvé dans mes archives. Il s'agit de Sergueï Lyapunov. C'est avec Stephen Hawke au piano. Thank you. Stephen Hawke au piano. Il s'agit donc d'un extrait des études transcendantales opus 11 de Sergueï Liapounov, un compositeur qui était donc contemporain de Tchekhov. Deuxième partie de ce vendredi théâtre, je suis toujours avec Tito Livio, l'inénarrable Tito Livio, je suis avec le fringant Christopher. Et pour ce plateau, nous recevons donc le Carré Rondelet pour sa deuxième partie de saison 2013-2014. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir monsieur Avner Pérez. Bonjour.
Bonjour.
Vous devenez vraiment un habitué de ces studios. Alors, il y a plein de monde dans le studio. Avner, je vous propose de nous présenter les personnes qui vous ont accompagné pour présenter cette saison.
Oui, donc on a ici l'équipe tunisienne avec laquelle nous travaillons depuis maintenant un certain temps, hein, parce que ça commence à être quelque chose qui se fixe au fur et à mesure. Donc, et il y a ici donc le Afed Jedidi qui se trouve ici et qui est, disons, à l'origine d'un projet donc franco-tunisien, une expérience dont il va vous parler et qui s'est déroulée à Sousse, dans le sud de Tunis, hein, on est bien d'accord.
Parlez bien dans le micro.
Oui, et puis on a également donc, l'auteur du texte donc, de l'expérience qui a eu lieu, de la pièce de théâtre qui sera jouée donc, ce soir et demain au Carré Rondelet, Dominique Gauthier.
Et puis... Bonjour.
Bonjour. Et puis, encore la Tunisie avec Hafiz, qui lui n'est pas à cette première venue ici au Carré Rondelet, hein, je crois que c'est la troisième.
Oui, oui.
Voilà, et avec lequel aussi nous sommes en train d'élaborer de futures créations.
Alors je disais en présentant cette émission que nous allons parler donc de deux révolutions que presque 40 ans séparent, à savoir donc la révolution de Jasmin et la révolution des œillets. Et là je me tourne plus particulièrement vers Tito, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, la révolution des œillets qui était donc en avril 1974. Pourquoi avoir choisi ces deux révolutions? Je sais que la Tunisie et le Portugal vous importent beaucoup, vous êtes né en Tunisie d'ailleurs.
Oui. Oui, bien entendu, ces deux pays me sont très chers. Oui, je suis né en Tunisie. La Tunisie est pour moi vraiment le pays affectif, le pays avec lequel il y a des vibrations d'enfance, j'oserais dire. Et puis le Portugal, parce que j'ai vécu à la fois dans la zone portugaise, hein, au Cap-Vert pendant plus de 6 ans, et au Portugal lui-même pendant une dizaine d'années, que mes enfants sont quasiment bilingues, et que la langue portugaise me fait frémir autant que le tunisien. Voilà. Et donc oui, j'ai imaginé cela donc sur cette base-là, bien entendu, de sensibilité par rapport à ces deux pays, mais aussi parce que je pense que ces révolutions, ces deux révolutions... Ces deux peuples, je crois qu'il y a un génie des peuples marins, comme le Portugal et la Tunisie. Ce sont des peuples, je l'ai dit dans mon éditorial, ce sont des peuples à dimension humaine. Ce sont des peuples qui ont aussi déclenché des révolutions qui, jusqu'à aujourd'hui, bon, on peut dire, n'ont pas été véritablement violentes. Hein, on ne peut pas le dire, même dans le cas de la Tunisie, même s'il y a eu de petites choses que nous déplorons tous. Et puis parce que je pense que, bon, concernant la Tunisie, mais aussi le Portugal, que ce sont des laboratoires d'énergie, il se passe là-bas des jeux de conciliation, des essais de résolution pacifique des antagonismes, et que ceci doit être presque un modèle pour les autres, toutes les autres révolutions, par exemple, des pays arabes. Et je pense que la Tunisie est vraiment au cœur de cette expérience intéressante pour tout le monde arabe et puis pour tout le monde, hein. Parce qu'on a quand même frémi à un moment et on s'est aperçu qu'ils avaient eu justement le génie de faire autre chose que une simple révolution violente.
On va commencer tout de suite par parler plus particulièrement donc de la révolution de Jasmin, donc cet hommage à la révolution de Jasmin. Qu'est-ce que vous nous proposez pour cet hommage?
Alors, donc l'hommage a commencé, hein, il y a déjà plus de 2 jours, hein, avec donc...
Hier soir, c'était la présentation.
Alors, hier soir, c'était l'inauguration, mais avant, il y avait eu quand même deux spectacles, donc proposés par la troupe de l'association Radé, en Méditerranée. Donc, d'une part, un spectacle pour enfants qui s'est déroulé hier ou avant-hier, je ne sais plus, et ce spectacle pour enfants qui a pour titre...
Au puits, rends-moi ma figue.
Et puis, il était suivi d'un spectacle, donc d'une création, hein, de la même troupe de Sousse, Et hop dans la valise, qui est un spectacle très émouvant sur les rapports entre un clown et sa marionnette sur le tard. Voilà, donc ça, ces deux spectacles ont eu lieu. Hier, l'inauguration, donc on a essayé de donner un petit échantillon un petit peu de tout ce qu'on allait faire. Et puis ce soir, donc, c'est la première française, on pourrait dire, donc, de la carte du tendre dont l'auteur est ici présente.
Alors, cette carte du tendre, c'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Quatre comédiens, une comédienne, ils sont à Stockholm, ils sont dans un cabaret théâtre, on va dire, et ils répètent une pièce qui s'appelle « La gifle ». Alors, à partir de là, évidemment, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils vivent à la fois leurs propres interrelations, leurs propres passions amoureuses d'aujourd'hui, au quotidien. Et comme ils sont dans un lieu où il y a une toile de Christine de Suède, la despote, mais aussi, bien sûr, la femme tellement cultivée et tellement artiste, qui a favorisé les artistes.
Christine de Suède, c'est la reine Christine.
La reine Christine, Christina, c'est la fille de Gustave Adolphe. Fille d'une Hohenzollern du côté de sa mère, de Marie-Éléonore. Donc elle a été éduquée presque comme un garçon par rapport à l'époque. Elle parlait le suédois, bien évidemment l'allemand, le français, l'italien ensuite. Elle s'exprimait en latin, faisait tout autant de l'astronomie, de la botanique et de la philosophie. C'est pourquoi donc elle a invité Descartes. L'autre toile, on est dans le cabaret théâtre, l'autre toile, c'est celle de Descartes. Puisqu'en 1649, elle l'invite et ce qui est assez... elle l'invite à propos du traité des passions. Parce que ce qui est fascinant, c'est la femme. La femme qui est une prédatrice, rôle qu'on croit connoté uniquement masculin, mais elle, à partir de là, elle conçoit, compte tenu de l'époque dans laquelle elle vit, vraiment une vraie interrogation éthique, personnelle, individuelle. Et c'est pourquoi elle s'interroge à savoir qu'est-ce qui fait le plus de mal. Est-ce que c'est la haine ou est-ce que c'est l'amour? Ce que va brillamment exprimer, bien sûr, beaucoup mieux que moi, ce que vont exprimer les comédiens, entre autres propos, ce soir, donc, dans cette pièce.
Alors donc, vous êtes à l'écriture et qui est à la mise en scène?
Cécile Atlan est à la mise en scène et elle réalise un vrai... challenge, elle réussit quelque chose d'assez étonnant parce que effectivement vous dites la carte du tendre, c'est la pièce que j'ai écrite, mais le final n'est pas de moi et de Monique Chaibi. Le challenge au niveau de l'écriture scénique, Hafez Jedidi qui est dramaturge et qui a dirigé l'Institut des Beaux-Arts à Sousse, hein, faut pas l'oublier, lui a proposé donc ce véritable challenge. En quoi il y a challenge? Eh bien, dans le fait que Majil, à moi, est une femme qui pose bien ses rapports aux hommes. Donc, on pose la question des rapports hommes-femmes à travers le transculturel, à travers l'histoire aussi, bien sûr. Il y a un Andalou parmi les comédiens en question. Il y a un Tunisien, il y a deux Suédois. Et ils vont être amenés aussi à parler rien moins que d'Averroès, parce que c'est quand même des intellos, c'est quand même des comédiens. Hein. Donc, c'est pas c'est des gens qui portent des valeurs, qui portent une histoire, des cultures. En quoi Cécile Atlan réalise quelque chose d'assez merveilleux quand même, d'assez magique, et c'est ça le théâtre, hein. Eh bien, c'est dans le fait qu'elle elle réussit à faire de cette Jill... qui posait bien ses rapports donc aux hommes dans une espèce de relation, on dirait aujourd'hui d'égalité altérité. Elle va la faire basculer Je ne vais peut-être pas vous dire où elle finit la pièce, parce que sinon, en fait, Jedidi va, va au moins m'étrangler à la sortie de, du studio radio. Elle va basculer dans la douleur et vraiment dans autre chose. Ceci dit, la pièce, c'est c'est un ballet homme-femme, paradoxalement, parce qu'il y a des danses des deux côtés de la Méditerranée, des costumes, des musiques des deux côtés de la Méditerranée, il y a aussi de la vidéo, donc c'est un spectacle mixte.
Christopher, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, vous parliez de cette alliance des deux côtés de la Méditerranée. Je me demandais si on pouvait, que j'ai découvert hier à la présentation la genèse de ce projet. Ça m'a fait penser à Montpellier. On parle souvent de collaboration entre ce sud de France et ce nord du continent africain, ce Maghreb. On ne le voit pas souvent abouti et exploré. Mais j'étais assez émerveillé, assez heureux de voir hier que vous aviez porté un projet qui, me semble, lie parfaitement ces deux cultures des deux rives de la Méditerranée. Donc je me demandais si vous pouvez revenir un peu sur la genèse de ce projet.
Qui veut intervenir ?
Oui, ce projet est... parce qu'il y a une absente qui a été aussi un peu agitatrice autour de ce grand projet, c'est Michèle Bayard. C'est grâce à cette rencontre que j'ai eue avec elle en Tunisie que l'idée d'un atelier d'écriture est tout de suite apparue comme une opportunité pour rapprocher justement les deux rives. Et donc je me déplace au nom de la DED. À Montpellier d'abord, puis à Perpignan, pour animer un atelier d'écriture dramatique, avec des participants qui, au départ, n'ont pas une expérience, disons, notable au niveau de l'écriture dramatique. Et donc, l'atelier était très bien amorcé, il a très bien fonctionné, aussi bien ici à Montpellier qu'à Perpignan, et plus particulièrement à Elne, je crois, que chez l'association Ville de Carpe. Parce que ce projet a associé en fait trois associations, et c'est ça ce qui est intéressant. Une du Maghreb, donc l'association RADED que j'ai l'honneur de diriger, et l'association Côte Soleil, et l'association Butte de Carpe. Donc ce projet d'atelier d'écriture se réalise sur trois étapes. La dernière s'est faite en septembre, où je suis revenu pour boucler pratiquement les dix pièces qui ont été menées à bon port. Et là, donc, j'ai eu l'idée de publier ces textes-là grâce à l'intervention d'un ami éditeur à Grenoble. Et donc, l'ouvrage sort, Florilège comportant les 10 textes, avec le texte d'une Tunisienne qui va à son tour compiler deux textes de ce florilège et donner lieu à ce spectacle qui s'appelle La carte du tendre. Mmh. Et là, pour mener le côté pédagogique jusqu'au bout, j'ai voulu que les écrivains qui ont participé à cet atelier viennent en Tunisie pour voir un peu comment ce qui advient d'un texte une fois édité et une fois entre les mains d'autres instances. Et voir comment cette conjugaison des imaginaires peut pratiquement aboutir à quelque chose de très beau. Et donc les stagiaires sont venus en Tunisie, ils ont assisté aux dernières répétitions avec Cécile Atlon, et à la première, je crois, Dominique, non ? Je crois que...
Oui. Ouais. Et je confirme aussi que c'est vraiment du bonheur, et que c'est une création complètement collective, puisque justement j'insistais sur la transformation même du personnage.
Et les textes ont été publiés, je vois qu'on a entre les mains le volume. Le bouquin, c'est publié, oui. À quelle édition ?
Chez Un Narrator, qui est un éditeur de Grenoble.
Oui, de Grenoble, oui. Et il fallait un couronnement pour ce projet. Il fallait pratiquement un contact direct avec le public français pour voir un spectacle qui porte en fait plusieurs imaginaires. Mmh. Et c'est grâce à Avener que cette rencontre va avoir lieu, j'espère, ce soir. Voilà.
Alors hier, dans, pardon.
Non, mais aussi pour répondre à la question de Christopher, là, oui, ce projet, enfin, cette mise en place...
On n'a plus de micro, là. Je vais vous demander de prendre le micro volant. Parce que visiblement, on a un problème de micro.
Bon, bah, très bien. On m'entend, là?
On vous entend.
Oui, d'accord, très bien. Oui, donc je voulais un peu aller dans le sens de ce qui a été dit tout à l'heure à propos de, donc, de ce mélange des cultures et de ce que nous avions effectivement proposé hier. Bon, alors on le dit, on l'a dit avec Fed, hein, ça constituera en fait cette première expérience, comme l'embryon, on pourrait dire l'édition zéro d'un futur projet que nous avons. Alors on ne sait pas si on l'appellera festival, mais enfin en tout cas de rencontre... des deux côtés de la Méditerranée, et faire en sorte peut-être de montrer le génie, encore une fois, culturel des deux côtés, et puis peut-être aussi lancer des projets créatifs enfin, entre nous. Voilà, donc c'est véritablement l'édition zéro, là. Voilà. Juste un mot aussi pour ajouter donc les deux autres spectacles peut-être.
Voilà, c'est ce que je voulais en venir.
Et toute l'animation autour de ces journées autour de la Tunisie. Alors nous avons ici donc mon ami Ahmed Hafiz qui est là et qui est déjà venu donc deux fois au Carré Rondelet et qui présente donc une série de spectacles et de contes différents tous les jours jusqu'à dimanche. Hein, et ça va se clore avec un humoriste d'ici, hein, Bouzid. Et puis, bon, avec Hafiz aussi, nous avons aussi un projet que nous présenterons au mois de juin, toujours dans le cadre du Jasmin, et qu'on a intitulé « Alal Kacher Blues, Tunis si je t'oublie ». Et donc c'est en gestation, c'est embryonnaire encore, et j'espère que ça aura lieu déjà au mois de juin, et peut-être que nous l'exporterons... plus tard, dans le cadre de ce grand projet que nous espérons tous.
Je vais reprendre le micro. On a un petit problème de micro. Mais j'ai appris, moi, hier, comme ça, que Nasreddin Hoxha, ça s'appelait, il ne s'appelait pas comme ça, en Tunisie.
Oui, il s'appelle Joha. Un personnage connu par tous les Tunisiens.
Mais c'est vous qui avez le vrai, d'après ce que j'ai compris.
Oui, oui, oui. le modèle déposé, c'est celui de Tunisie. Hein. C'est le Joha tunisien.
Vous savez qu'il y a une grande importance, ce personnage, pour la littérature portugaise.
Oui.
Et pour nos histoires et nos contes traditionnels. Et il y a même une des pièces de Gil Vicente, qui est le créateur du théâtre espagnol, qui était portugais, qui s'appelle Arte de Mufinamiento, par exemple. C'est le même personnage, mais féminin, par exemple. Et puis après, tout le monde connaît, ça vous le savez, le Pícaro espagnol, évidemment, il vient de là directement. Mais au Portugal aussi. Voilà.
La tradition des trouvères, des contes.
Oui. Déjà, les chansons d'amis portugaises, qui sont au Moyen-Âge les poèmes typiquement galaico-portugais, ont une métrique d'origine arabe. Donc, 5 siècles après, ce serait étonnant qu'il n'y ait pas resté quelque chose. Quand même.
On va faire une petite pause parce que je vois qu'on a des petits soucis de micro, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, puisqu'on va annoncer la révolution des œillets, la révolution des œillets s'est annoncée avec une chanson. C'était José Afonso, Grandola Villa Moreno.
Morena.
Morena, c'est une ville. C'est la ville.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Vila Morena.
cada esquina un amigo, en cada rostro igualdade, grandola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grandola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola a tua vontade, grandola a tua vontade, jurei ter por companheira sombrando uma azinheira que já não sabia a idade.
Et voilà Tito qui parle, alors qu'on est à l'antenne. Vous êtes toujours sur Vendredi Théâtre. Nous sommes avec le Carré Rondelet qui rend hommage à la révolution de Jasmin et la révolution des œillets. Alors ce qu'on vient d'entendre, je vais essayer de ne pas écorcher le nom, mais tiens, je vais laisser Christopher le présenter.
Oui, c'est la chanson qui a annoncé la révolution des œillets, la chanson de José Afonso, Grandola Vila Morena.
Et c'est vrai que quand on a entendu ça en 1974 sur les ondes, on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Tito, tu en sais quelque chose justement parce que tu étais...
Je suis comme tout le monde, je dormais à cette heure-là, donc j'ai pas écouté. Mais en fait, ça a été choisi parce qu'elle était interdite. Donc, et d'ailleurs, c'est passé sur les ondes de Radio Renascença, c'est qui était la radio de l'Église, qui elle n'était pas contrôlée. L'État faisait tellement confiance à l'Église catholique qu'il n'y avait pas de censeur présent et donc il pouvait passer un petit peu ce qu'il voulait. Et voilà.
Alors dans cet hommage donc à la révolution des œillets, il y a plein de spectacles qui vont être présentés au Carré Rondelet et j'ai noté comme premier spectacle, c'est Monsieur Cross et la politique d'après un auteur portugais qui s'appelle Tavares. Qui peut m'en dire un petit peu quelque chose ? Hors antenne, tu étais intarissable Tito, donc vas-y.
Je ne suis pas un spécialiste, donc, mais c'est déjà très, quelqu'un d'extrêmement intéressant, déjà parce qu'il écrit très bien. Très très bien, c'est magnifique ce qu'il écrit, c'est profond et simple à la fois, et j'adore, moi je suis un défenseur de la littérature simple, hein, parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de faire simple. La littérature dite populaire du 19e, c'est merveilleux, hein, Balzac, des gens comme ça, on lit ça, c'est du petit lait, et puis c'est tellement profond en même temps, Maupassant, etc. Donc c'est pas... ça, mais c'est un peu dans cette lignée au niveau de l'écriture. C'est quelque chose qui coule comme ça. Et en même temps, il raconte pas des petites histoires. Il y a une filiation quelque part, peut-être qu'il me démentirait, mais avec Balzac, avec la comédie humaine, et lui, il a Gonçalves Tavares a construit petit à petit une ville dans sa tête, comme Balzac a construit un monde dans sa tête avec les personnages.
Une comédie humaine.
Voilà, la comédie humaine. Ils savaient où habiter chacun. Ils avaient des dates de naissance, ils avaient des noms et des prénoms, ils avaient des femmes, des enfants. Ils avaient un parcours dans la vie et à chaque instant, ils rencontraient un autre personnage et Balzac avait tout ça dans sa tête. C'est extraordinaire, mais ils savaient à chaque moment. Le médecin venait, il savait pas. Bon,
il se trompait jamais en plus.
Il se trompait jamais.
Presque jamais.
Et Gonçalves Tavares a un peu cet univers comme ça. Il a une ville où habitent les gens qu'il aime, les grands écrivains, grands penseurs qu'il aime, et il s'amuse à les faire habiter dans cette ville. Voilà.
Alors ce spectacle s'est présenté par une compagnie. Vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots sur cette compagnie.
J'ai rencontré cette compagnie. Je voulais juste rajouter en fait, c'est la série donc de textes qu'il a écrit et auquel il a donné le nom à chaque fois dans le titre d'un grand écrivain, d'un philosophe, s'appelle Byron. Et c'est dans un quartier au fond que ça se passe. Et moi, ça m'a fait penser beaucoup à Pérec, un petit peu là, sur l'immeuble de Pérec.
Ah oui, bien sûr.
Et donc c'est un petit peu dans cette veine là qu'a été écrit.
C'est drôle parce qu'on a pensé la même chose.
Oui,
c'est Pérec, c'est dans la vie mode d'emploi.
Plutôt dans l'immeuble là qui décrit.
Même l'écriture. Cette simplicité complexe, voilà. C'est-à-dire quelque chose que n'importe qui peut comprendre, mais qui est extrêmement complexe et extrêmement profond en même temps. Mais qu'on peut lire comme ça, sans se casser la tête, comme on dit.
Alors là, donc, il s'agit de Krauss. En fait, c'est l'allusion à Karl Krauss, le philosophe allemand. Et donc, c'est très parodique. Il y a quand même beaucoup d'humour. Et cette troupe, donc pour en parler, je l'ai rencontrée à Avignon l'année dernière. C'est une très jeune troupe qui a un tout petit théâtre, un petit théâtre de poche. Suivez mon regard. qui se trouve à Lisbonne et qui est très dynamique. Et donc, qui a accepté de venir présenter donc, toute la semaine du 17 au 20 avril. La pièce de Gonçalo Tavares. Alors, bien entendu, j'espère qu'un jour, on pourra le rencontrer directement.
Mais je pense qu'ils viendront à Vendredi Théâtre.
Certainement. Ça va de soi. Voilà. Et puis, on a toute une série d'autres spectacles autour du Portugal. Alors, bien sûr, on a donné une part très importante à Pessoa.
Fernando Pessoa,
voilà, je dois dire qu'il y a aussi donc un texte de Dominique qui est ici qu'on va présenter le 23 et le 26 avril à 20h30.
Donc, un texte sur Fernando Pessoa.
Sur Fernando Pessoa que Dominique a écrit qui s'intitule Pessoa, le secret révélé.
Vous entendez des voix? Je rêve que j'en entends, aussi nette que si l'on parlait à côté de moi. C'est Agostina Bessa-Luis qui nous parle dans Le principe de l'incertitude.
Et grande Agostina Bessa-Luis.
La grande Agostina Bessa-Luis. Et qui parle du quotidien, qui parle, comme vous l'évoquez, avec beaucoup de simplicité, de personnes, de chair, de sentiments.
Elle aussi, elle adore Camille Castelbrun, par exemple. La littérature populaire extrêmement difficile à élaborer, parce que Camille, par exemple, allait chercher la rhétorique et le style... Comme on retrouve ça dans Saramago aussi, le style classique du XVIIe, XVIIIe siècle, mais pour en faire quelque chose d'extrêmement simple et des petites histoires qu'on raconte comme ça. Mm-hmm. Moi, je trouve ça génial.
Revenons à Pessoa.
Dans Le secret révélé, il est question d'une narratrice qui se balade dans la ville et dans l'histoire fabuleuse de ce peuple. Qui est visité par trois fois par Pessoa, qui vient lui parler de quoi? Lui parler de sa vie, lui parler des hétéronymes, de sa démultiplication en multiples personnages, de son rapport cosmique au monde. Et personne, évidemment, qu'elle... Ne le voit. C'est étrange de réaliser cela. Ni mon compagnon, ni aucune des personnes présentes sur la Plaza do Comercio ne percevait notre échange. Il ne faisait sens que pour nous deux. Et elle sera visitée trois fois dans le Chiado, au-delà de la Baïxa, au-delà de l'arc de la Via Augusta. Et puis, enfin, elle va être visitée à Belém. Nous avons visité le Mosteiro dos Jeronimos, car nous voulions nous laisser remporter par ce courant manuelin, être bercés par une houle doucereuse ou balayés dans des flots fantasques et puissants. Ce fut ce qui se passa à la faveur des navires, mâts et figures de proue, sculptés çà et là, des voiles calcaires bien bordées qui nous entraînèrent vers des cieux aux couleurs de l'océan, des cordages et nœuds marins qui couraient de tout diamètre le long des piliers et des voûtes de l'édifice. Une magnificence que seule avait pu inspirer la fougue des plus grands navigateurs. Et elle va le trouver, mais elle va le trouver, il est en train de parler avec Tabouki, voilà, auprès du tombeau de Camoès.
Je suis désolé de vous interrompre, je vois que l'heure tourne. De toute façon, on vous recevra à nouveau pour parler de Pessoa quand le spectacle aura lieu. Il y a deux autres spectacles de Pessoa. Il y a Le Marin, qui va être joué, et une lecture théâtralisée de l'Ode maritime, la grande Ode maritime de Pessoa.
Alors les deux...
Et Fado Blues.
Et Fado Blues, j'allais y venir très vite.
Je voulais juste quand même citer le metteur en scène et le comédien Manuel Ponce, donc qui a à la fois donc mis en scène Le Marin et qui va donc lire le texte Ode maritime dans une version théâtralisée. Donc.
Alors juste avant de se quitter, il ne reste même pas 10 secondes. Vous vouliez rajouter quelque chose sur la carte du tendre, très vite.
Que l'on vienne écouter Sonia Daou, qui a fait la compilation de textes et qui est professeure de littérature française à un monastir. Et qui interprète cet être aux hommes, cette manière d'être aux hommes très différente, vraiment d'une façon assez impressionnante.
Voilà, je suis désolé de vous interrompre parce que l'émission tire à sa fin. Merci à tous de nous avoir accompagnés. De toute façon, on va reparler du Portugal, on reparlera de Tunisie très bientôt. Et je vais laisser Christopher nous présenter le morceau avec lequel nous allons conclure. Merci à Vincent qui a assuré la technique.
Mais on va se quitter avec un autre morceau de José Afonso, Milho Verde.
Très bonne semaine théâtrale à tous.
Milho verde, ai milho verde, milho verde. Ai milho verde, maçaroca. Assombrado milho verde, ai assombrado milho verde, ai namorai uma cachopa. Milho verde, ai milho verde, milho verde, ai milho verde, miudinho. Assombrado milho verde, ai assombrado milho verde, ai namorai um rapazinho. Milho verde, ai milho verde, milho verde, ai milho verde, folha larga. Assombrado milho verde, ai assombrado milho verde, ai namorai uma casada. Mondadeiras do meu milho, ai mondadeiras do meu milho, ai mondai o meu milho. Vai.